c'est de l'amour que nous voulons parler. L'amour de Dieu, l'amour de l'esprit. Nous ferons la différence avec l'amour naturel, avec l'amour humain tel qu'il est conçu et se pratique dans la société déchue, la société qui provient de la chute. Et notre thème, c'est de reconnaître que l'amour de Dieu est une puissance de vie et de croissance. La croissance, il la faut. Si nous n'avons pas eu jusqu'ici la conviction que nous avions à grandir, non pas seulement dans les voies de l'Éternel, ça c'est une chose, grandir dans les voies de l'Éternel, c'est savoir mieux accomplir de jour en jour la volonté de l'Éternel, de Dieu, mais grandir devant lui, grandir dans la position où Dieu nous a mis, la position d'enfant de Dieu, grandir, être élevé. Le Seigneur a toujours élevé ceux qui lui étaient attachés et fidèles. David, le jour où il prit Jérusalem de haute main, grandit déjà, grandit dans l'Éternel. C'est pas que nous voulons satisfaire notre orgueil, il ne s'agit pas de notre orgueil, il ne s'agit pas d'une satisfaction personnelle, mais celui qui s'humilie sera élevé. Le Seigneur Jésus a été élevé, élevé bien haut, et le Seigneur veut nous élever aussi, bien sûr, à sa manière, à lui, hein, et pour nous conduire, où donc, nous conduire à la gloire. Et je veux répéter encore, je le redirai jusqu'à samedi, mes amis, si l'on dit, je suis sauvé, j'ai cru, je me suis repenti, j'ai reçu le pardon de mes péchés, c'est bien, c'est la grâce fondamentale, il la faut, d'une façon absolument indispensable. J'ai donc eu le pardon de mes péchés, je suis chrétien, je suis dans l'Église, je suis sauvé. Et si l'on dit cela, alors que l'on n'a pas l'amour, alors que l'on n'aime pas, on est dans l'illusion. On est dans une position absolument opposée à la révélation de la vérité. On n'est pas dans la vérité. Et c'est triste, et c'est grave, n'est-ce pas, de dire « je suis sauvé ». Et j'ai eu l'occasion de parler de ces choses quelquefois avec de chers frères et sœurs qui précisément montraient de graves manquements quant à l'amour, parce que l'amour, nous le verrons, l'amour se manifeste d'une façon pratique. Et de leur dire ceci, mais voyons, êtes-vous sauvé, êtes-vous enfant de Dieu? Mais oui, oui, je suis, j'ai été baptisé. Et pourquoi jugez-vous? Et pourquoi dites-vous des choses de votre frère? Et pourquoi avez-vous dans le cœur toujours une rancœur contre quelqu'un? Et pourquoi refusez-vous de pardonner? Un jour, il y a une sœur, c'était Daniel Thévenet. Daniel Thévenet, qui avait annoncé, fait un message, une étude assez longue et intéressante sur la nécessité de pardonner. Belle étude, n'est-ce pas, sur le pardon. Pardonnez, afin que Dieu vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas aux autres vos offenses, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Et puis, après cette réunion, il y avait le déjeuner, je viens m'asseoir à la table, et je vois une sœur qui arrive vers moi et qui me dit, eh bien moi, frère, je ne pardonne pas. Alors je lui ai dit, bon, ben écoutez sœur, vous êtes libre de ne pas pardonner, mais vous êtes libre aussi d'aller à la mort. L'enfer s'ouvre tout grand devant vos pas, vous êtes libre, je ne pardonnerai pas. Et nous avons vu Bien sûr, cette sœur, après, on lui a fait changer un petit peu, n'est-ce pas, les pensées de son cœur, et alors je l'ai amenée, n'est-ce pas, à concevoir le pardon et à s'engager dans la voie du pardon vis-à-vis de quelqu'un qui l'avait évidemment gravement offensé. Bon, mais ensuite, nous avons eu l'occasion de demander une assemblée qui était nombreuse, il y avait peut-être 600 personnes, vous voyez, c'était sous le grand chapiteau, au Coteau Fleuri, en l'occasion de demander aux personnes qui étaient là, aux chrétiens, s'ils avaient besoin qu'on les aide sur ce plan-là, s'ils étaient certains d'être libérés de ce côté, s'ils avaient vraiment pardonné. Eh bien, moi, j'ai été étonné, j'ai regardé l'assistance, c'était presque... presque la moitié de l'assistance qui s'est levée, et ils sont venus confesser qu'en effet, ils n'avaient pas le cœur libre. Chers amis, c'est un manquement à l'amour extravagant, c'est un manquement à l'amour terrible, cela. Et l'Écriture nous dit bien, si vous ne pardonnez pas à vous les offenses, ne comptez pas que le Seigneur puisse vous pardonner à vous-même. Bon, alors ceci n'est pas l'objet de notre étude ce matin. L'objet de notre étude, c'est le premier commandement. Nous allons lire dans Matthieu 22, au verset 34. Alors, voulez-vous ouvrir votre Bible, 22, verset 34 jusqu'à 40, et après nous lirons le même passage dans l'évangile de Marc. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et puis nous allons à Marc, il est bon que Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéen, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. » Ça avait mis un point final à ce débordement de questions très certainement inutiles. Voilà comment le Seigneur Jésus a parlé. Regardons cela d'un peu plus près. On demande au Seigneur quel est le plus grand commandement, d'un côté. De l'autre, on lui demande quel est le premier commandement. Et le Seigneur répond qu'il va citer le premier et le plus grand. Le premier et le plus grand des commandements. Et il répond sous cette forme dans Marc, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et Jésus cite deux textes de l'Ancien Testament, ce n'est pas la peine de nous y reporter, je vous les donner les références. Deutéronome 6, chapitre 6, verset 4-5, et Lévitique 19-18. Deux textes, par conséquent, séparés dans l'Ancien Testament. Ils ne sont pas liés. C'est le Seigneur qui les lie, là. Ils sont séparés. Et puis, le commencement, là qu'on trouve dans Marc, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu et l'unique Seigneur, était devenu, du temps de Jésus déjà, oui, était devenu, au milieu du peuple d'Israël, une prière qu'on appelait le schéma. Donc, le Seigneur Jésus rappelle là à ses interlocuteurs quelque chose qu'ils connaissent bien. Mais il reprend évidemment ce qu'il trouve dans ces textes de Deutéronome, particulièrement que Dieu est un Dieu unique, l'affirmation de l'unicité de Dieu. Dieu est unique. Dieu unique d'ailleurs peut être seul l'objet de l'amour suprême de l'homme. Et en reprenant de l'Ancien Testament cette vérité, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, en reprenant cela, Jésus paraît voiler sa propre divinité, l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il parle de quelqu'un qui n'est pas lui. Il ne se met pas à lui. Pourtant, il est appelé, il sera appelé tout au long des Écritures, il sera appelé Seigneur. Même dans l'Ancien Testament, il est appelé Adoni, comme fils de David. Bon, alors, l'explication que nous avons de cela, puisque le Seigneur ne nie pas sa divinité ici, n'a pas pour dessein de nier sa divinité, mais n'oublions pas que selon ce que nous apprend le chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, le Seigneur est dans l'abaissement. L'incarnation a eu lieu, il est là, en forme d'homme, il est entré dans la famille humaine, et il a une nature, une humanité toute semblable à la nôtre, moins le péché en lui, bien sûr, mais une humanité telle que la nôtre. Il est dans l'abaissement, c'est le Seigneur dans l'abaissement. Ça n'empêche pas que la divinité soit là, n'est-ce pas? À certains moments, on la voit paraître, la divinité. Chaque fois que le Seigneur, dans les évangiles, dit « je suis », ce n'est pas pour rien qu'il emploie cette forme, n'est-ce pas? « Je suis », c'est Yahvé, Dieu, n'est-ce pas? Bon, mais ici, il ne veut pas détruire la pensée chez ses interlocuteurs, ni même chez nous, la pensée de l'unicité de Dieu. Dieu est un Dieu unique. Il ne faut pas que nous cédions à cet argument qu'on nous oppose quelquefois. Oui, dans le christianisme, vous avez trois dieux. Il y a des musulmans qui nous opposent ça, vous avez trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons un dieu unique qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et il faut qu'il soit cela. Si on connaît la révélation, on comprend pourquoi Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et on comprend que tout doit être réuni en Christ. L'Épître aux Éphésiens, dans son chapitre premier, nous montre que dans le dessein de Dieu, il y a cela, de réunir toutes choses en Christ. Parce que Christ, lui, est la parole de Dieu qui exécute les desseins du Père. Le Père est souverain. C'est le Père qui a conçu la création, par exemple, et c'est le Fils qui l'a accompli. Et puis, nous avons des textes aussi qui nous montrent que Christ est en Dieu. Et en fin de compte, quand tout sera rentré dans l'ordre, il n'y aura plus d'ennemi aucun, pas même la mort. Alors là, le Seigneur représenter à son Père tous les pouvoirs qu'il a reçus de lui, afin que Dieu soit tout en tous. Alors là, la grande unité se reconstituera parce que les actions contre les ennemis, contre le désordre né de la chute du péché, auront été résorbées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Marc ajoute un quatrième élément, la force. La force. Alors voyons un peu séparément ces éléments. En premier lieu, le cœur, puis l'âme. Le cœur, ici, je ne veux pas vous faire de longues dissertations sur le cœur et l'esprit, l'âme. Je rappelle simplement brièvement ceci, que l'homme est une trinité, esprit, âme et corps. Hein. Votre être tout entier, l'esprit, âme et corps. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, abondent en textes également trinitaires, non pas trinitaires seulement pour Dieu, mais trinitaires pour l'homme. Dans l'Ancien Testament, on ne les voit pas généralement, et pourtant les textes y sont. Donc, l'homme est bien constitué ainsi de trois éléments. Seulement, on parle beaucoup du cœur. Alors, le cœur est-il un quatrième élément? Non pas. Le cœur, lui, désigne cette action combinée, commune, conjuguée entre l'esprit et l'âme. Parce que notre esprit, lui, c'est pas lui qui agit. L'action est déterminée dans l'âme. Mais l'esprit guide l'action. Parce que l'esprit, lui, a le privilège des relations avec Dieu. L'esprit a ce grand privilège. L'esprit est, si vous voulez, ce qu'il y a de plus haut dans l'homme. Dieu a formé dans l'homme un esprit, dit Zacharie, chapitre 12, verset 1. Il a formé dans l'homme. Un texte des Proverbes, chapitre 20 et verset 27, nous dit que l'esprit dans l'homme est une lampe de l'Éternel, et qui est là pour éclairer jusque dans les profondeurs de l'être. Et nous retrouvons cela aussi dans les enseignements de Jésus. Bon, alors, donc le cœur, c'est l'âme et l'esprit qui nécessairement agissent ensemble. Il y a des auteurs même qui voient que l'esprit est une sorte de partie jointe à l'âme. Bon, on peut accepter ça aussi, mais enfin, l'Écriture nous dit que Dieu a formé dans l'homme un esprit, l'âme était elle-même absolument nécessaire. En somme, l'âme, si on veut mettre pour notre compréhension un échelonnement dans la création, on dirait que l'âme a été créée avant l'esprit, c'était nécessaire. Dieu ne peut pas mettre un esprit dans quelque chose qui n'existe pas. Bon, alors donc, le cœur, c'est l'âme et l'esprit agissant ensemble, d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Donc, il y a un cœur mauvais et il y a un cœur excellent. Il y a un cœur partagé et il y a un cœur fidèle. Tout dépend des directions que l'on prend. Alors, l'esprit en relation avec Dieu reçoit donc l'appel de Dieu à aimer. Tu aimeras, c'est un appel à aimer. Et il met l'âme en mouvement. L'esprit met l'âme en mouvement. L'esprit qui reçoit, si vraiment il est bien dans la communication avec l'esprit de Dieu, alors l'esprit met l'âme en mouvement. Et l'esprit doit avoir autorité. Quand nous sommes faibles, c'est que l'esprit n'a pas suffisamment autorité sur l'âme. Alors c'est l'esprit qu'il faut fortifier. Il faut demander à Dieu de nous réveiller l'esprit. Alors, il met l'âme en mouvement et l'esprit recueille les convictions qui lui sont apportées par l'Esprit de Dieu. Il recueille des certitudes et l'âme se nourrit de cela. Et l'âme, elle va vibrer, elle va, elle aussi, diriger le corps. Donc, il faut en premier lieu que le cœur, c'est-à-dire l'esprit engageant l'âme, soit saisi de cet appel de Dieu à aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. La pensée est également stimulée par l'esprit et doit se plaire à s'attarder dans la contemplation de la grandeur et de la bonté de Dieu. Elle veut rester dans la relation avec Dieu qui est ouverte par l'Esprit. Et elle se met au service de l'esprit. La pensée, quand l'esprit est fort, se met au service de l'esprit. C'est pour ça même que l'on peut arriver à ce que dit Paul. Nous avons la pensée de Christ. Parce que la pensée est entièrement, alors, la soumise à l'esprit de Dieu. Et la force. La force, il y a un terme en hébreu qui est méode, et qui, en effet, signifie bien force. La force, qu'est-ce qu'elle fait dans cet amour envers Dieu? Eh bien, elle met au service de l'amour les facultés actives, l'énergie, la volonté d'aimer. Hein, chers amis, la faiblesse, c'est ça, c'est que avec la foi, nous n'avons pas la volonté, nous n'avons pas le méode, nous n'avons pas la force. Alors, bien sûr, c'est l'esprit qui va, l'esprit lui-même, dans sa puissante attache à l'esprit de Dieu, va pouvoir stimuler la volonté et faire apparaître le méode, la force. En résumé, pour aimer Dieu, l'élan part du cœur vers Dieu, puis il met en mouvement le sentiment. Au niveau de l'âme, il y a forcément le sentiment. Nous sommes des hommes, nous ressentons, nous vibrons le sentiment. Il ne faut pas que l'amour de Dieu ne soit que sentiment, mais il y a le sentiment à sa part, le sentiment, la volonté, le méode, et puis l'intelligence au niveau de l'âme spirituelle. L'intelligence elle-même, intelligence et sagesse spirituelle, précise bien Paul dans le chapitre 1er des Colossiens. Et voici le second commandement, nous dit le Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord faire une mise au point là-dessus. Il n'y a pas, en somme, dans cette parole du Seigneur, trois commandements comme certains ont voulu le découvrir. Il n'y a pas trois commandements. Il n'y en a que deux seulement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, certains ont dit, ah, voyez-vous, il faut aimer son prochain, mais il faut s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc tu vas t'aimer toi-même. Il y a un commandement du Seigneur. C'est fausser l'Écriture. Oh, chers amis, comme il faut faire attention de ne pas fausser la parole de Dieu. C'est pas ça que dit le Seigneur. Il ne dit pas qu'il faut t'aimer toi-même. Il ne fait pas un commandement de cela. Il n'y en a que deux commandements. Tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Ce sont les deux seuls. Que veut dire alors comme toi-même? C'est une simple indication. Une simple indication pratique. D'ordre pratique. Le Seigneur est pratique. Pour faire comprendre comment on va aimer son prochain. Qu'est-ce que tu fais pour toi que tu trouves bon? Je pense à un chrétien qui sait faire choix des choses, bien sûr, n'est-ce pas? Il a du discernement. Bon, alors ce chrétien, dans son discernement, sait ce qui est bon pour lui. Il est bon, par exemple, aujourd'hui, d'être là en retraite avec nous. Bon, c'est une chose qu'il a choisie. Bon, ben ça, il doit désirer pour le prochain. Hein? Il ne faut pas que le prochain reste dans la rue. Hein? Voyez-vous, il doit le désirer. Si lui, il va à l'église, s'il reçoit de bonnes choses à l'église, s'il est en communion, s'il se sent vraiment soutenu par Dieu dans toute son existence, alors il le veut pour le prochain. Voyez, voilà ce que le Seigneur a dit. C'est une indication pratique pour faire comprendre comment aimer Dieu. Et alors, nous pouvons illustrer ça par des citations. D'abord, Matthieu 7, 12. Matthieu chapitre 7 et verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, eh bien faites-le, de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Car c'est la loi et les prophètes. Encore la même chose, n'est-ce pas? Cela se répand dans tout ce que la loi a pu dire, tout ce que les prophètes ont pu proclamer. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même. Voilà ce que veut dire... aime le prochain comme toi-même. Et puis alors un autre texte qui est dans les Éphésiens, chapitre 5 et verset 29. Chapitre 5, verset 29. car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Voyez, voilà ce que veut dire Seigneur. Personne ne va haïr sa propre chair, c'est pas naturel ça. On ne va pas s'infliger dans certains ordres religieux, on pouvait le faire, n'est-ce pas? Je pense que ça se pratique plus, mais enfin, se fustiger, par exemple, ou se soumettre à des régimes inhumains. Non, c'est pas ça, n'est-ce pas? Personne n'a haï sa propre chair, et il la nourrit. Alors, quand vous êtes à table, vous êtes content d'être bon aussi, n'est-ce pas, d'être devant la table, on a besoin de se nourrir, c'est normal, n'est-ce pas, ou pas trop manger quand même, n'est-ce pas. Mais enfin, il la nourrit, n'est-ce pas, c'est normal, il en prend soin. Eh bien, voilà ce que Christ fait pour l'Église. Donc, vous voyez ce que veut dire, n'est-ce pas, aimer comme toi-même, ce n'est pas un commandement, une simple indication. Et Jésus va mettre en parallèle le commandement d'aimer Dieu et celui d'aimer le prochain. Il va les mettre, les conjuguer, les mettre en parallèle. Dans l'Ancien Testament, je l'ai dit, ils n'étaient pas liés. C'est le Deutéronome d'un côté et le Lévitique de l'autre. Et Jésus les lie l'un à l'autre. Mais il pose un commandement fondamental, absolument fondamental. Aimer Dieu. Sans lui, le second ne peut pas être observé. Alors là, il faut que je fasse une petite digression, parce que tous nos amis, peut-être n'étaient pas là tous hier, je sais qu'il y a quelques visiteurs, notamment d'Angoulême, n'est-ce pas? Il est bon que je précise ceci, c'est que dans Romains 5:5, Paul nous dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Alors, la plupart du temps, nous comprenons que c'est la possibilité d'aimer Dieu qui est versée dans nos cœurs. La possibilité d'aimer Dieu, oui, bien sûr, ça n'est pas mauvais, mais c'est mal concevoir le texte. Il faut toujours le regarder à travers vraiment la lumière, par la lumière. Et dans le contexte de ce verset, l'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, eh bien, nous voyons bien qu'il s'agit de l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu, Dieu aime le premier. Nous ne pouvons pas, nous, prendre l'initiative de l'amour. C'est Dieu qui prend l'initiative. Par conséquent, pour aimer Dieu, il faut que je sois aimé de Dieu et que j'aie dans le cœur cette conviction, ce bonheur d'être aimé Dieu. Et si j'ai cet amour de Dieu pour moi, dans mon cœur, immédiatement, de mon cœur, jaillit la réponse, l'amour envers Dieu. Donc quand le Seigneur dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », dans le fond, il faut, à l'éclairage de toute l'Écriture, il faut comprendre que nous avons besoin de connaître cet amour que Dieu a pour nous. Si nous ne connaissons pas cet amour que Dieu a pour nous, eh bien, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui ne sait pas ou ne tient pas compte de cet amour de Dieu pour lui, donc quelqu'un qui vraiment n'est pas dans les bonnes convictions de la foi, de la vie chrétienne, celui-là ne pourra pas vraiment aimer Dieu. Alors, un commandement fondamental, avons-nous dit. Seul l'amour dominant de Dieu peut d'ailleurs désintéresser un homme de sa propre personne. Et pour aimer, il faut cela. Être désintéressé de sa personne. Oh, chers amis, le défaut qui subsiste partout, c'est le grand intérêt que nous nous accordons à nous-mêmes. Ne voyez pas ça comme une critique, mais faites-en vous-même la constatation. Écoutez, mettons les choses honnêtes. Quand j'entends de chers amis chrétiens en conversation me parler longuement de leurs affaires, Bon, de leur santé, bon, c'est bien, un petit peu de la santé, ça va. Et puis, de leurs affaires, et de ceci, et de cela, et de leur famille, et de ce qu'ils ont fait, et de ce qu'ils ont préféré, etc., etc. N'est-ce pas? Ça me met mal à l'aise, parce que je dis, mais ces pauvres, ils ne voient que cela. Ils ne voient que ça, ils se regardent, ils se regardent vivre. Mais c'est pas possible d'aimer comme ça. On ne peut pas aimer comme ça. Il faut un désintéressement. Il faut un renoncement à soi, dit le Seigneur Jésus, sans lequel n'est pas possible. Il faut que je voie l'intérêt de l'autre. Il faut que, pour aimer le prochain, puisque c'est conjugué avec l'amour en vertu, eh bien, il faut que le prochain m'intéresse. Et l'Écriture nous dit qu'il faut considérer le prochain comme au-dessus de soi-même. Même si, par exemple, j'ai affaire à un tout jeune chrétien qui vient d'entrer, qui ne connaît pas grand-chose de la BBC, il a reçu l'essentiel, bon, il s'est repenti, il est pardonné, il est heureux, n'est-ce pas? Mais il ne connaît rien de la Bible. Moi, depuis des années, j'en connais bien davantage que lui. Cependant, je dirais, celui-là, je le regarde comme m'étant supérieur. Pas d'un point de vue peut-être de connaissance, mais d'un autre point de vue. Moi, j'ai intérêt à sa personne, j'ai intérêt à sa vie. C'est comme ça que je l'aime. J'ai intérêt à sa vie. Et si moi, je viens ici vous prêcher la parole de Dieu, vous l'enseigner, n'est-ce pas? C'est parce que j'ai demandé au Seigneur la capacité de vous aimer. Je viens pas, moi, ne vous faire, vous présenter quelque chose, une philosophie, une marchandise, disons, que je vous donnerai comme ça, prenez-en, faites-en ce que vous voulez, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait mon travail de représentant. D'ailleurs, on n'est jamais un représentant vraiment. Alors, j'ai fait mon travail, bon, et puis je m'en vais, j'ai fini mon travail, c'est fini. C'est pas ça, n'est-ce pas? Pour parler à l'Église, il faut aimer l'Église. Il faut aimer, il faut éprouver vraiment de la tristesse, du chagrin, quand l'Église est en proie à un malaise, à un mal, lorsque les choses sont troublées par l'esprit du diable, lorsqu'il y a un affaiblissement, on doit être malheureux, jusqu'à peut-être en pleurer. C'est ça l'amour, chers amis. Donc, on s'oublie soi-même, désintéressement de sa propre personne, être conduit à renoncer à soi-même, et considérer le prochain comme le nouvel objet, le seul objet de l'amour. Vous direz, mais, et soi alors, et soi. Pour nous, pour chacun de nous, ne nous soucions pas de nous. C'est le Seigneur qui se soucie de nous. Il se soucie. Et je vous assure qu'il s'en soucie bien mieux que nous ne le ferions nous-mêmes. C'est le Seigneur. Alors là, n'est-ce pas, notre personne, bon, nous savons qu'elle est bien gagée. Le Seigneur nous soutient, nous garde, sa puissance nous garde. Et nous, nous sommes là pour garder les autres. On peut dire que de la conjugaison de ces deux commandements, le commandement d'aimer Dieu et le commandement d'aimer le prochain, on peut dire ceci, il y a deux chemins envers le prochain qu'à travers Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne pourrai pas aimer le prochain. C'est pas possible. D'ailleurs, je ne saurais pas que je suis aimé de Dieu. Nous l'avons vu tout à l'heure, je ne saurais vraiment pas que je suis aimé, je n'aurais pas compris combien je suis aimé de Dieu, et je ne pourrais pas moi-même aimer Dieu, et par conséquent, je n'aimerais pas le prochain. Je pourrais faire quelque bien au prochain, comme ça, c'est possible, n'est-ce pas? Être un peu charitable, dans les limites humaines, mais je n'aimerais pas vraiment. Il n'y a de chemin vers le prochain qu'à travers Dieu. C'est ce qui nous fait comprendre un texte terrible. Il y a un texte terrible dans l'évangile de Luc, et nous allons le regarder, ce texte. Il est terrible. C'est Luc chapitre 14 et verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voyez, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, qu'est-ce qui lui reste? Même pas lui, même pas sa propre vie. Qu'est-ce qui lui reste? Rien du tout. C'est terrible, ça. Et alors, bien sûr, quand je considérais ce texte autrefois, je me suis reporté tout de suite aux Grecs et j'ai dit peut-être c'est la traduction est un peu fautive, mais pas du tout, pas du tout. Le grec se traduit littéralement par haïr. Je sais que dans un texte parallèle, Matthieu, il y a aimez moins, n'est-ce pas? Aimez moins. Bon, mais le véritable sens ici, n'est-ce pas, il ne faut pas l'éluder, c'est Luc qui nous l'apporte, haïr. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un commandement terrible, affreux, n'est-ce pas, quand vous recevez des nouveaux venus dans l'église, si jamais vous leur dites, bon, toi mon ami tu viens de te convertir, bon, t'as une femme, t'as des enfants, t'as des petits-enfants, tu les aimes bien, n'est-ce pas, oh oui, tu les aimes, bon, ben tu vas les haïr. C'est terrible, ça. Et pourtant, c'est vrai, il y a une vérité. Et nous allons la voir, cette vérité. Il y a toujours une vérité, voyez-vous. Il ne faut jamais s'arrêter, buter sur un texte. C'est la parole de Dieu partout. Il ne faut pas buter sur un texte et puis dire, non, ça, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Non, il y a une vérité, nous allons la voir. Pour comprendre ce que le Seigneur a voulu dire ici, de haïr les gens de sa propre famille, eh bien, il a voulu dire ceci. Si vous venez à moi, si quelqu'un vient à moi, veut s'attacher à moi, vraiment, veut s'attacher à moi, c'est ce qu'il faut. Bon, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va d'abord supprimer radicalement le genre d'affection ou d'amour qu'il a pour les gens de sa famille, qu'il avait pour les gens de sa famille avant de me rencontrer, avant que je ne me transforme. Maintenant, je transforme. Et le genre d'amour, d'affection qu'il avait, n'est-ce pas, il va supprimer. Et il allait à toutes les fêtes, n'est-ce pas, avec ses petits cadeaux, et puis alors il apportait des petites choses enveloppées de jolis papiers avec des petits rubans roses, verts, bleus, etc. Tiens, voilà un cadeau pour ta fête, pour ton anniversaire, etc. Oh, on s'embrasse, n'est-ce pas, tout ça. Bon, ce genre d'affection, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et alors, il faudra faire table rase de ça. Et le sens de haïr, c'est ça. Et alors, on va désormais, quoi donc? Va des rétro Satanas, va-t'en Satan? Non, pas. C'est pas ça, non. Mais ce qu'on va faire, on va désormais les aimer. Ah, c'est ça qu'on ne comprend pas. Les aimer d'une autre manière. On va les aimer à travers Dieu, c'est-à-dire vraiment. Moi, j'ai dans ma propre famille, dans notre propre famille, des gens qui nous écrivent plus, nous regardent plus, etc. Bon, pourquoi? Parce que l'évangile, ça leur reste là, n'est-ce pas? Ça passe pas. Ça ne passe pas. Bon, si vous voulez, nous n'y pouvons rien, n'est-ce pas? Ils se ferment, ils s'attachent à toutes sortes de superstitions, à toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Ils s'attachent aux œuvres. Ils veulent se sauver par les œuvres. On a beau leur dire gentiment, écoutez, c'est pas du tout ce que dit ça, c'est même pas ce que disent les auteurs catholiques. Bon, alors, ça, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Ils veulent pas, alors ils nous écrivent pas. Nous, bon, de temps en temps, un petit bonjour. Bon, mais c'est vraiment triste, mais nous les aimons comme ça. Et nous ne pouvons pas les aimer autrement. Nous n'allons pas venir les cajoler leur disant, bon, bah écoutez, bah essayons de nous entendre, oui, vous pensez comme ça, moi je pense autrement. Bon, ben enfin, on est de la même famille, on s'aime bien, on se réunit ensemble, on fera les communions ensemble, les mariages ensemble, etc. Hein? Non, je ne peux pas aimer comme ça. Ne peut pas aimer, c'est trahir le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous explique. Il faut aimer d'un amour nouveau et vrai, d'un amour où la vie des membres de la famille et leurs biens seront recherchés jusqu'au dernier moment. Nous allons rechercher leurs biens. C'est ça l'amour que le Seigneur nous demande pour eux. rechercher leur bien, et nous savons que nous arriverons à sauver des gens de notre famille. Quand le salut est entré dans une famille, il va plus loin, le Seigneur veut aller plus loin. Nous ne les aimerons plus pour nous-mêmes, parce qu'ils sont gentils, parce qu'on est content d'avoir de la famille autour de soi. Nous ne les aimerons plus pour nous-mêmes, mais pour le bien, ni pour le bien que nous allons retirer de leur amour, mais pour leur bien à eux, pour eux-mêmes. Toute forme purement humaine de l'amour pour les autres, donc, est imparfaite. Elle est gravement imparfaite, souvent, et cet amour peut même tourner à l'inimitié et à la haine. C'est la preuve que cet amour n'est pas bon. Cet amour que le Seigneur nous dit d'abandonner, sous la forme « tu haïras ». Cet amour qu'il faut, cet amour humain, la preuve, tenez, c'est facile à la dire, n'est-ce pas, cette preuve. Eh bien, ce sont les rivalités entre frères et sœurs d'une même famille. Il n'y en a pas de rivalité, il n'y en a jamais. Moi, je l'assure que j'en ai vu beaucoup. Il y a les hypocrisies. Les hypocrisies, il y a les embrassades qui sont conjuguées avec la médisance. Quand on se voit, on s'embrasse, et puis le dos tourné, n'est-ce pas, on se démolit, on se dévore. On dit, oh celui-là, il a toujours été comme ça, il n'a jamais changé, il ne changera jamais celui-là, il ne changera jamais. Alors comment voulez-vous convertir quelqu'un dont vous dites, il ne changera jamais? Et puis, il y a la discorde entre les époux, il y a les divorces, il y a les crimes, mais... Or, tout ça montre bien que cet amour ne vaut rien. Il ne faut pas laisser subsister cet amour-là. Si nous allons à Christ, nous allons pour faire son œuvre partout, et dans notre famille notamment, alors nous allons supprimer cet amour, qui on ne peut pas dire même qu'il est seulement affectif. Il est affectif, mais c'est un amour qui est altéré par la chute. Par le péché est là. Tant que nous avons le péché en nous, nous ne pouvons pas aimer, vraiment. Alors, pour sortir de l'égoïsme, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de consacrer son moi, à l'obéissance envers Dieu. On ne peut pas prétendre aimer Dieu seul. Ceux qui prétendent servir Dieu en s'isolant de l'Église commettent une faute et une grave erreur, parce qu'en s'isolant de l'Église, ils s'isolent des frères et des sœurs. Alors, ils sont tout seuls chez eux, ils se disent, moi, Dieu est partout, Dieu est chez moi, je peux prier Dieu, je peux l'adorer, je peux méditer, etc., etc. Mais qui as-tu pour te marcher sur les pieds? Si tu es tout seul, personne ne peut te marcher sur les pieds, personne ne peut te faire tort, personne ne peut t'irriter, et il faut que tu sois irrité, il faut que tu supportes quelque chose, parce que l'amour, ça s'apprend comme ça, n'est-ce pas? Alors, par conséquent, on ne peut pas rester isolé, il ne peut pas y avoir de relation d'amour avec Dieu qui se situerait dans un domaine à part. Dans un domaine indépendant de notre relation d'amour avec les autres. Et ça, la première épître de Jean le dit, mais je ne m'y arrête pas maintenant. L'amour envers Dieu, donc, trouve son champ d'application immédiate dans l'amour du prochain. Ainsi, ces deux commandements ne forment qu'un seul commandement, un commandement double. Vous comprenez ce que le Seigneur nous a enseigné ainsi. Alors, chers amis, vivons ce commandement. Alors, nous avons encore quelque chose à dire, ma foi, profitons encore du temps qui nous reste. Hein. Sans ça, ce temps, on va aller le perdre dehors, là. Hein? Bon. Alors, notre sujet de la semaine, c'est l'amour puissance de vie. Une puissance de vie. Et de croissance. Mais enfin, voyons d'abord une puissance de vie. Quand vraiment, pratiquement, nous aimons Dieu et le prochain, tout rentre dans l'ordre de la vie véritable. Tout rentre dans l'ordre. L'amour fait tout rentrer dans l'ordre. C'est pour ça que l'amour est vraiment l'accomplissement de toute la loi. Il fait rentrer tout dans l'ordre. En veillant à ne pas faiblir dans l'amour, nous maintiendrons la vie en nous. Plus nous aimons, plus nous connaîtrons l'abondance de la vie. Le Seigneur Jésus, dans Jean 10, nous a dit qu'il donnait à ses brebis la vie, l'abondance de la vie en abondance. Eh bien, mais vous ne voulez pas cette abondance? Et cette abondance, il la faut. Et plus nous aurons l'abondance de l'amour, plus nous aurons l'abondance de la vie. Aimer est le moyen de vivre dans la puissance de la vie du Seigneur. Est le seul moyen. Aimer, c'est la vie. Aimer, c'est vivre. Vivre la vie de Dieu. La parole fait de l'amour un commandement, alors que l'amour vient de Dieu, n'est-ce pas, qui nous a aimé le premier, nous l'avons dit. Alors, le commandement nous demande, quoi donc? Il nous demande de tendre constamment notre foi vers le désir d'aimer, et il nous demande d'apprendre à aimer, puisqu'il y a beaucoup d'expressions pratiques dans la manifestation de l'amour. Donc d'apprendre à aimer, apprends-moi à aimer. Nous avions un chant comme cela dans les ailes de la foi. Avec la foi, la volonté va s'exercer dans le même sens qu'elle-même. Au lieu de nous dire d'aimer Dieu, le Seigneur Jésus aurait pu nous parler autrement. Il aurait pu, sans déroger à la vérité, nous dire simplement ceci: soumets-toi à Dieu et à sa volonté. Et il aurait dit la même chose. Mais il fallait le dire des deux manières, bien sûr, c'était préférable. D'autre part, cet amour pour Dieu et pour le prochain ne s'acquiert qu'à travers la croix et la résurrection de Jésus. Nous avons dit que l'amour que Dieu verse dans les cœurs par le Saint-Esprit, c'est son amour, l'amour qu'il a pour nous. Et cet amour qu'il a pour nous, nous le voyons là, n'est-ce pas, vraiment magnifique, grand, à la croix du calvaire. Moi, j'ai eu un jour une révélation au sujet de l'amour avec le Seigneur, après avoir prié un long moment dans le soir, la nuit même, dans un dehors. Je disais au Seigneur: Seigneur, j'ai conscience de croire à l'amour, mais je crois ça dans le domaine de l'idée. Je crois que c'est bon d'aimer, qu'il faut aimer, oui, c'est ça. Mais Seigneur, je ne peux pas dire que vraiment je sais ce que c'est que l'amour, non. J'ai conscience de croire la lettre, plutôt la lettre de ta parole, que parfois de pénétrer cette parole. Et j'avais prié longuement comme ça, et dit: Seigneur, il faudrait que tu me fasses comprendre ce qu'est l'amour. Et puis, comme ça, en persistant longtemps, n'est-ce pas, le Seigneur quelquefois nous donne des temps prolongés, utilisons ces temps. Alors, au bout de peut-être une heure, eh bien, voici qu'une révélation me vient, mais alors là, quelque chose de massif, quelque chose qui s'impose. Et je conçois l'amour, et je vois l'amour. Mais, impossible de traduire ça en mots. Impossible de décrire. Je sens l'amour, je vois l'amour, je réalise ce qu'est l'amour, ce que le Seigneur nous dit. J'en avais le souffle coupé, et j'ai dit au Seigneur: Seigneur, mais c'est immense, mais qu'est-ce que c'est? C'est un domaine extraordinaire que le domaine de l'amour. C'est fantastique. Ah, Seigneur, Seigneur, et alors naturellement, je louais, je bénissais le Seigneur. Demandez au Seigneur qui vous donne cette vision-là, parce que il ne la donne pas qu'un seul. Demandez-lui qu'il vous fasse vraiment, qu'il vous mette au contact de la réalité de cet amour, qu'il vous le fasse entrevoir, comme ça, en dehors des mots, en plus des mots, parce que les mots sont impossibles, sont incapables de traduire vraiment la réalité de l'amour. Alors, nous allons maintenant, certes, terminer. Vous savez que l'Écriture nous dit, dans les Romains 13, versets 8 à 10, que l'amour est l'accomplissement de la loi, parce que l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font pas de mal au prochain. Les commandements qui interdisent, les commandements de la loi, du décalogue qui interdisent de faire du mal au prochain, et ce sont ceux-là que Paul cite dans Romains 13, eh bien, ils sont accomplis parce que l'amour ne peut pas faire du mal, l'amour ne peut que faire du bien au prochain. L'amour du prochain, donc, engendrera l'accomplissement de la justice de Dieu. De la justice de Dieu. L'amour ne fait pas de mal au prochain, il est donc l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de la justice. Quand cet amour est pratiqué, même, alors dans l'Église, le légalisme, c'est là qu'on voit que le légalisme n'a plus aucune raison d'être. Et on comprend Paul de nous dire, mais les commandements ne sont pas faits pour le juste, pour ceux qui sont vraiment justifiés, qui vivent dans la sanctification. C'est pas pour eux. C'est la loi est sainte et bonne. Oui, Paul le dit dans les Romains. C'est vrai, mais c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. C'est pour le méchant, c'est pour l'impie, c'est pour le rebelle. Alors pour eux, la loi est nécessaire toujours, n'est-ce pas? Mais pour l'Église, non. Si nous vivons dans l'amour, ce n'est pas la loi qui va nous empêcher de faire du mal au prochain. C'est l'amour lui-même qui ne peut pas se servir de nous pour faire du mal. L'amour ne peut pas faire de mal. Il ne peut faire que le bien. Donc le commandement d'amour est le plus grand et le premier de tous, combien le Seigneur Jésus avait raison. Il est l'essence de la vie véritable, de la vie nouvelle. Que le Seigneur nous fasse entendre ces choses. Amen.